Bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par partager une pensée que j'ai reçue pendant l'adoration. J'avais cette intuition que plusieurs étaient comme Élie. Élie est un prophète, un homme de Dieu, qui avait déployé son zèle, comme il dit lui-même. C'est-à-dire il s'était épuisé dans la réalisation de la mission que Dieu lui avait confiée. Et puis, il s'était tellement donné, il s'était passé des choses extraordinaires. Le feu était descendu du ciel, le feu dont on parlait ce matin. Et Dieu s'est manifesté. Et puis, il s'attendait qu'autre chose se passe après ça, que le peuple d'Israël, à l'époque, se convertit, se tourne vers Dieu, se consacre. Il ne voit pas ça et il est découragé. Et il se peut que plusieurs comme ceci soient découragés. C'est-à-dire, vous avez déployé votre zèle, vous êtes attendu à des choses qui ne sont pas arrivées. Et puis le Seigneur s'approche de lui. Je trouve cette scène magnifique pour plusieurs ici. Il s'approche de lui et il lui fait pas de reproches. Et il prend soin de lui. Et il lui donne un rendez-vous particulier à la montagne où il lui parle. Et curieusement, Dieu fait passer beaucoup de bruit, de l'orage, etc. Puis à un moment donné, Dieu s'approche et il le rencontre. Mais dans l'intimité, on parle cela, le murmure doux et léger. Dieu lui parle dans un murmure doux et léger. J'aime notre Dieu. L'Esprit de Dieu est un consolateur qui, quand on est épuisé, fatigué, qu'on a besoin de restauration, vient vers nous et puis il veut nous murmurer des choses au-dedans de notre cœur, au plus profond de ce que nous sommes. Et ces paroles sont une puissance de restauration. Il était dans la dépression, il se sentait mais épuisé, il était découragé, à quoi bon, reprends ma vie. Et puis parce que Dieu lui parle, il se relève. Et il reprend son chemin et il entre dans une nouvelle mission. Je crois que c'est la parole de Dieu pour plusieurs ici ce matin. Et après ça, alors qu'il se sentait seul, Dieu l'envoie vers un fils spirituel qui s'appelle Élisée. Il lui redonne une mission. Et pour être réconcilié avec son appel, qui sort de la dépression, il trouve un fils et en qui il va se déverser. La Bible nous raconte que c'est son héritier qui prend sa mission. Lui, il s'en va au ciel. Enfin, c'est une histoire extraordinaire qu'on trouve dans Roi. Et il s'en va au ciel et puis Élisée continue. Et en fait, il a réussi sa mission parce qu'il a eu un successeur. On dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Élie a eu un successeur. Il a accompli la mission que Dieu voulait pour lui. Et pour cela, ça passe par le fait d'accueillir sa parole, d'accueillir son esprit qui vient parler à nos cœurs, et sans jugement, sans condamnation, le murmure doux et léger. C'est indispensable pour les croyants d'avoir des moments comme ceci. On peut, vous savez, pendant l'année, on peut s'affairer, puis dans nos vacances, un moment particulier où le Saint-Esprit vient, dans un murmure doux et léger, parler à nos cœurs, nous restaurer, nous renouveler profondément, nous redonner de la force pour nous lever les yeux et voir des Élisées qui sont autour de nous. Pour nous donner le courage. Il y a des Élisées qui sont dans vos vies et le Seigneur veut vous envoyer à nouveau. Vous restaurer, vous envoyer à nouveau. Et c'est cela. À ses pieds, dans la communion avec lui, entendre sa voix. Sa voix est puissante. Je veux juste prier. Vous voulez bien juste fermer vos yeux et inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi le consolateur, toi qui nous conduis dans la vérité, nous t'accueillons et nous prions que chacun de ceux qui sont ici entende ton murmure doux et léger, reçoive une nouvelle mission adaptée à la saison où ils sont. Je prie, Saint-Esprit, envoie dans la moisson, envoie dans la mission, dans la part qui revient à chacun ici. Renouvelle tous ceux qui sont découragés au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout abattement, tout épuisement, tout burn-out, tout quelque chose qui vient nous vider soit rempli par ta présence. Approche-toi, Saint-Esprit, nous nous approchons de toi. Toi-même, approche-toi de chacun ici. Et comme Élisée, le murmure doux et léger restaure. Profondément, que ta parole guérisse, que ta parole libère et aligne avec ta volonté au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus. Non, j'ai dit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. recevez-le. Et en fait, l'exercice de ce matin, c'est un exercice qu'on veut faire régulièrement dans notre vie d'église. Il y a comme on suit les saisons. À peu près tous les 3 mois, il y a un cycle. C'est comme ça. On pourrait changer, mais c'est comme ça que le Seigneur nous a conduits jusque-là. Avoir des saisons. Et en fait, après chaque saison, 3 fois dans l'année, on veut écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Dans une des lettres de l'Apocalypse, à un moment donné, Jésus lui-même dit que ceux qui ont des oreilles soient attentifs à ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous croyons, nous sommes une église charismatique, pas simplement pour chanter en langue, mais surtout pour être capable d'entendre ce que le Saint-Esprit dit. De pouvoir le savoir pour nos vies, mais pour le savoir pour l'Église. S'arrêter pour dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Où est-ce que tu es en train de nous conduire? Une Église qui sait où est-ce que le Saint-Esprit nous conduit a une assurance, a une autorité, a une sécurité. Devant des circonstances qui pourraient être adverses ou des choses qui voudraient nous distraire, on peut se recentrer parce qu'on peut dire « Nous savons ce que le Saint-Esprit dit à l'Église ». Ce n'est pas simplement des prédications comme cela, dimanche après dimanche, qui se passent, mais c'est un moment donné où tout le monde a conscience, se branche sur ce que le Saint-Esprit dit et peut dire « J'ai des oreilles et je sais ce que le Saint-Esprit me dit et ce que le Saint-Esprit dit à l'Église ». C'est un exercice qui pour moi est déterminant. La question est de savoir, est-ce que dans ces moments-là, on sait entendre et dire ce que l'Esprit dit? Mon objectif ce matin, c'est que chacun ici puisse ressortir par « je sais ce que le Saint-Esprit nous dit ». Et plus que de le savoir, je vais le pratiquer. Parce que des fois, on pourrait s'arrêter à savoir, et c'est Jacques qui nous dit « ne vous bornez pas à entendre simplement, à savoir ». Mais maintenant, on va passer à l'action. Et l'action nous défie, l'action nous fait sortir de nos 4 murs. Et c'est l'objectif de ce temps. Nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit, je crois, est en train de nous dire des choses. Et la série que nous venons de terminer, c'est une série qui s'appelle « Réconciliation », c'est une série de prédications. En fait, ça fait à peu près 4 mois. Que tous les dimanches, nous sommes sur ce thème de la réconciliation. Et on va en parler tout à l'heure. Je vais citer un autre texte avant de nous mettre en groupe. Parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il dit, parce que c'est trop facile. Vous allez vous mettre dans les groupes, vous allez répéter ce que j'ai dit. Si jamais vous considérez que ce que je dis, c'est vraiment le Saint-Esprit. Ce serait un bon exercice, ça aussi. Non, c'était une blague. Mais on va se mettre en petit groupe. Parce qu'on n'est pas venu simplement pour entendre ce que quelqu'un a à dire, mais que chacun s'exerce à écouter ce que le Saint-Esprit dit. Et vous allez être étonné que comment quand on se met à l'écouter et à partager, à écouter les autres, et dans ce qu'ils disent, à essayer d'entendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire, il va y avoir une synthèse, un mot, une phrase. Je vais vous défier. Après ces groupes, on va se mettre en 4, 5 maximum. Après 5 minutes, chacun aura partagé ce qu'il ressent de ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Et je vais vous dire, il ne le dit pas qu'à une église, il le dit aux églises. C'est un message global. Il s'agit de se discipliner ou d'avoir la capacité à prendre du recul sur moi, ma saison, ce que je vis, puis comprendre ce que le Saint-Esprit attend de nous, de chacun de nous, en tant qu'église, même aussi en tant que famille. Tout ceci doit converger pour mobiliser nos cœurs dans la prière et dans la foi, dans l'obéissance. Je vais juste citer un autre texte que j'ai reçu ce matin en prière. C'est David, à un moment donné, il est dans une guerre envers les Philistins, puis il a un désir. La Bible nous rapporte que 3 hommes sont vaillants, le connaissent tellement bien qu'ils entendent son désir. Et un désir fou. Et je crois, on a chanté ce matin, nous voulons être le peuple embraser l'église que ton cœur attend. Et il y a quelque chose dans le cœur de Dieu, Jésus attend quelque chose de nous. Et je pense que c'est un peu la même chose qui s'est passé. David a envie de boire, il est en siège, Bethléem est occupé par les Philistins, et lui il est là en dehors et il veut boire de l'eau qui est à Bethléem, d'un puits de Bethléem. Et pourtant il y a un combat. Et ceux qui sont tout proches entendent Ce que David a envie, c'était une envie un peu folle. Ils avaient de l'eau là, vous voyez. Mais lui, il voulait boire l'eau qui est à Bethléem. Puis il y en a trois qui entendent David. Et Jésus, pour nous ce matin, c'est David. Jésus veut boire de l'eau. Jésus veut boire quelque chose que nous allons les uns les autres lui amener, mais ça va nous coûter. Vous savez, quand il est avec la Samaritaine, il dit, mais j'ai une nourriture, j'ai quelque chose qui me nourrit, qui me désaltère, qui vient du Père, faire la volonté de Dieu. Et dans le cœur de Jésus, il a envie de voir le salut se manifester. Je vous le dis. Et du coup, les trois vaillants hommes entendent ça. David veut boire. Notre héros veut boire de l'eau. Et ils sortent du camp, ils s'en vont, ils traversent les Philistins. C'est-à-dire, laissez-nous passer. On ne veut même pas se battre contre vous, laissez-nous. On va aller à Bethléem, dans le village, prendre de l'eau et le ramener à notre roi. Il n'était pas roi à l'époque, mais enfin, notre chef. Et puis, une fois, ils traversent. Et là, avec l'eau, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, ils retraversent les Philistins. Laissez-nous passer, quoi. Ils traversent, ils viennent donner cette eau à David. Vous savez, ce qui désaltère ou qui rassasie le cœur de Dieu, c'est le salut. Quand les gens sont sauvés, Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Il a soif de voir les gens sauvés. Et si on adore, si on écoute, si on se connecte à son cœur, à sa mission, on va entendre Jésus nous dire, j'ai soif, donne-moi à boire. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire là? Est-ce que ça a du sens? Si ça a du sens, secouez les mains, juste. Ok. Où sont les vaillants hommes de David qui sont prêts au péril de leur vie de traverser, d'aller chercher de l'eau, des âmes qui sont perdues, de venir donner à boire à Jésus? Jésus veut boire le salut, voir des vies transformées, passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il veut boire cela. Ça, c'est ce qu'il y a sur le cœur de David. Et il soupire. C'est un soupir. Il dit, mais qui me fera boire de cette eau? Et un peuple embrasé, un peuple qui veut être ce que Jésus attend, va être connecté à cela, va être capable de se lever et de dire, au prix de ma vie, je vais aller combattre. Parce que, vous savez, ces âmes-là, il y a une armée qui les tient en prison. Il y a un ennemi qui les tient. Cet ennemi, il est vaincu. Et au prix de leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent. Et il va y avoir un combat. Vous savez, David, l'homme... Parce que Jésus, lui, il aurait bu ça, parce qu'il est Dieu. Quand ces trois hommes ramènent cette eau, il dit, mais ça, c'est leur sang. C'est pas de l'eau, c'est du sang. Je peux pas boire ça. Dieu seul peut boire ça. Mais Jésus, lui, si tu lui ramènes au prix de ta vie, il va boire. Parce que ce sont des âmes. Si tu entends le soupir, est-ce qu'on entend le soupir? Qui me fera boire? Jésus dit, qui me fera boire? Et cette eau, c'est des vies, c'est du sang. C'est ta vie, mais c'est la vie des autres que vous prenez, que vous amenez à Jésus. Et Jésus y boit. J'espère que j'ai perdu personne dans ma métaphore. Hein. Jésus boit. Je voudrais qu'on se mette par groupe maintenant, s'il vous plaît. Pas plus de 5, 4 ce serait l'idéal. Et ceux qui nous visitent, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais ça se fait à clé. Voyez, et la prédication... C'est ce que vous allez partager. Vous allez partager ce que vous entendez de ce que le Saint-Esprit dit, du murmure de Jésus. Qu'est-ce que vous entendez de ce que Jésus murmure? Qu'est-ce que vous entendez? Et c'est très sérieux comme exercice. Qu'est-ce que tu entends que Jésus murmure? Et on va le partager. Alors mettez-vous en groupe pendant que vous le faites. Il y aura quelqu'un qui va rapporter un mot ou une phrase. Je ne veux pas de discours. Un mot ou une phrase que tu entends que Jésus murmure à l'église. Vous pouvez être debout, vous pouvez être assis, mais vous avez 5 minutes. S'il vous plaît, merci d'être discipliné pour qu'on continue ensemble à écouter ce que le Saint-Esprit dit. Alors, je fais exprès de ne pas induire, je n'ai pas donné de thème sur ce qu'on est en train de nous vivre en tant qu'Église, parce qu'il y a des visiteurs. Sentez-vous libre de dire ce que vous ressentez du Saint-Esprit. Puis quelqu'un fera la synthèse. Merci. Le temps. Ceci est terminé. Restez encore à votre place et je vais vous faire bouger tout à l'heure. Ok. Le mot de la fin. Alors, tu veux bien noter pour moi, Jasmine ? Je vais résumer. Ici, s'il vous plaît, quel est le mot ou la phrase ? Vous n'avez pas encore. Vous échangez, oui, mais il faut que vous arriviez à une conclusion. Quelqu'un avec un esprit de synthèse. Alors, s'il vous plaît, on va dire ensemble chute. Comme ça, ça va amener une fin. En 1, 2, 3. Encore une fois, s'il vous plaît, tout le monde se tait et écoute maintenant. Voilà, super, prenez place. Quel que soit là où vous en êtes, qu'il y ait quelque chose qui sorte, parce que je veux continuer, il va y avoir une suite à cela, mais un mot, une phrase. Votre groupe, il y a quelque chose ? Vas-y.
La priorité, c'est d'amener les gens à Jésus. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Et pour ça, il faut regarder les gens comme Jésus les voit et pas se laisser perdre dans des combats à droite à gauche, mais aller directement au but.
Excellent. Excellent. Alors, votre groupe ici ? Tu as bien noté, c'est bon ?
Alors, attends, je n'ai pas encore fini. Oui. Alors... Allez, sors de ton église et témoigne. Fais-le au quotidien et c'est un travail d'équipe.
Ça vient ?
Okay. Nous, ce qu'on recevait, c'est que des gens étaient épuisés à faire des choses que Dieu ne demandait pas. Et que ce que Dieu demandait, c'était d'aller sauver des âmes et que Dieu nous redonnait la force pour partir.
Nous, ce qu'on a reçu, c'était le repos, éventuellement l'instruction de la parole, parce que le Seigneur disait que son peuple périt par faute d'instruction.
Okay.
Alors, le Seigneur nous disait d'aller dans le champ de mission dans lequel il nous a placés, que ce soit dans notre milieu professionnel, familial ou associatif. Et aller, pas forcément aller chercher beaucoup plus loin quelquefois ce qu'on a sous la main autour de nous, il y a des gens qui ont soif de Dieu.
Vous avez fait un groupe ou pas ?
Ben nous, il y a deux choses qui sont émergées, c'est consécration et sortir pour témoigner justement et aller chercher des âmes.
J'ai l'impression que je vous ai payé pour dire ça.
Alors nous, ce qui est ressorti par le Saint-Esprit, c'est transmettre ce qu'on a à transmettre et proclamer la gloire et la force que Dieu donne à travers nous, en fait, et de le transmettre.
Vous dites amen, c'est bon, elle a bien résumé ?
Ah oui.
Alors, le roi vient bientôt. Le roi vient bientôt sur son cheval blanc pour et en fait de préparer par l'amour, la compassion, la miséricorde, sans oublier de prévenir que le compromis est il faut sortir du milieu d'elle, mon peuple. Voilà.
Alors le roi vient sur son cheval blanc, c'était une image de Jésus qui revient. Donc c'est la foi au retour de Jésus. Hein. Ok.
Pareil, l'idée de la consécration, de sortir des murs, d'avoir le regard de Jésus qui pleure sur les âmes perdues.
Wow. Vous avez fait un groupe ? Qui c'est qui parle ?
Ce que j'ai reçu, c'est que Dieu veut que nous soyons le centre, qu'il soit le centre de notre vie, et que l'Église aussi soit le centre de la vie de Dieu.
Okay, que Jésus soit au centre de nos vies et que l'Église soit au centre de son projet. C'est vous deux, hein, vous deux. Ok. Qu'est-ce que...
Alors, proche de lui, ne reste pas dans ta zone de confort. Donne-toi, obéis, n'aie pas peur, fais-lui confiance, il agira.
Chacun s'est exprimé. La première personne a raconté un miracle à des gens qui n'étaient pas prêts à croire. Donc c'est, il y a des gens qui sont très loin. Et après, moi, cette semaine, j'ai l'expérience de parler du Seigneur à quelqu'un qui est tout près du salut, comme ça, tout près, tout près. Alors, c'est de la joie, ce monsieur veut me revoir, il me revoit. Et je suis sûr que cette semaine, ça va, je vais pouvoir cueillir le fruit. Et ça, c'est formidable. Attends, j'ai pas fini. Tu rigoles. L'idée, c'est que je pourrais rester chez moi à regarder la télévision, à rien faire. Je suis fatigué, mon corps a du mal à suivre. Mais non, il faut que tous les jours, j'aille dans un lieu où il y a des gens qui se promènent là. Et c'est là que je rencontre les personnes. Saloda. Tu voulais dire quelque chose ?
Ok.
C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, en fait, pour être ses ambassadeurs. Et le mot principal que Dieu nous a donné, c'est que nous sommes porteurs de sa présence partout où nous allons, en fait. Que ce soit dans l'intimité, que ce soit devant les gens, partout où nous allons, nous sommes porteurs de la présence de Dieu.
Amen, amen,
amen. Ah. Alors, ça résume, je vais résumer. Attendez, hop. Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Le salut possible uniquement parce que nous sommes des témoignages vivants et parce que nous sommes nous-mêmes porteurs et transformés. Et ensuite, levons-nous et bâtissons par des pierres vivantes qui sont des âmes à sauver.
Amen. Waouh, 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 waouh.
Ce qu'on a reçu, c'est les uns les autres, prier les uns pour les autres, aimer les uns les autres et prier pour que la zone de turbulence que le pays est en train de vivre puisse être remplacée par la paix du Seigneur.
Alors, se tenir à la brèche pour nos familles, que nos vies, quelque chose de plus. Et voit les soupirs de Dieu pour son peuple, et une urgence d'amour, et abattre les murs, et tenir ferme dans l'espérance.
Tenir ferme dans l'espérance. Amen. Tout avec eux. Ok. C'est le même groupe ? D'accord.
L'obéissance à la parole de Dieu nous garantit l'espérance d'une moisson abondante.
Alors nous, on a reçu Éphésiens 4, 5, 6 qui nous dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Et juste avant que tu prêches, en fait, j'avais reçu « Quel est ce nouveau chemin que tu veux que nous prenions ce matin, Seigneur ?» Et en conclusion de ce qu'on a évoqué ensemble, c'était « Abandonner les idoles de nos vies qui nous éloignent de notre Père, se centrer uniquement sur notre Père qui œuvre en nous et dans les autres. »
Nous avons su qu'il fallait aller, mais que nous rentrons dans un temps d'inconfort et que ça ne sera pas forcément confortable. C'est comme si le Seigneur nous disait, oui, je voulais le fruit de la vigne, mais maintenant je veux le jus qui sort de ces fruits. Parce que pour avoir le jus, il faut l'intervention de l'homme et il veut œuvrer avec nous, mais ça ne sera pas confortable. Parce que pour avoir le jus, il faut écraser le fruit.
Vous captez la pensée de l'esprit, là ? Ouais.
Pareil. Et on était ensemble.
Ah, vous étiez ensemble. Très bien.
Alors, nous, deux choses. Premièrement, c'était qu'on a reçu qu'il fallait qu'on soit en phase avec la volonté de Dieu. Parce que ne pas être dispersé, mais tout comme Jésus l'a été. Donc, dans la volonté de Dieu, être en phase. Et la deuxième chose, c'était être serein, avoir la paix dans l'épreuve.
Amen, amen, amen. Vous avez formé un groupe de même? Très bien, ici.
Bah, nous, en fait, on a reçu le mot réconfort, pour le coup, dans le sens où Dieu voulait donner un confort qui n'a jamais eu lieu. Et à la suite de ce confort, la réconciliation en même temps.
Excellent. Il y a combien de groupes là ?
Nous, on a reçu qu'il y avait une portion comme une ration de pain quotidienne qui était prête à être délivrée et qui voulait être distribuée à tout le monde et qui avait la capacité de passer les murailles et de franchir jusqu'à l'objectif.
On a reçu l'ouverture en prenant soin des gens.
C'est des situations, il faut laisser couler. Il y a des situations, il faut juste laisser couler.
Ok. Laisser couler. Et c'est le dernier groupe ici.
Alors nous, on a chacun reçu quelque chose et ça a fait...
Un tout.
Un tout, voilà. Et en fait, on a reçu que c'est dans le repos et la restauration que la flèche de l'esprit nous transperce pour nous révéler et nous permettre de lâcher prise pour aimer inconditionnellement notre prochain.
Wow. On peut encourager.
Je ne sais pas si vous arrivez... Oui, vous pouvez vous remettre à vos places ou rester là, ce n'est pas très gênant. Mais restons concentrés. C'est une prise de risque pour moi ce matin, mais ça me paraît tellement évident ce que le Saint-Esprit dit. Ça me paraît vraiment évident et c'est un grand encouragement par rapport à ce que nous vivons ici en tant qu'Église, parce que bon, il y a plusieurs visiteurs, mais je vais vous lire la synthèse du même exercice proposé aux membres des conseils d'église de la pastorale de Montpellier. En fait, je suis coordinateur de cette pastorale et il y a 3 mois, j'ai proposé cet exercice aux membres des conseils d'église, responsables d'église, plusieurs, pour dire qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à l'église de Montpellier. Exactement comme dans l'Apocalypse, vous savez, il y a plusieurs lettres, Jésus envoie des lettres à des églises et il leur dit des choses, des encouragements comme des choses à corriger. Et du coup, c'est un exercice spirituel qu'on a fait exactement comme ce matin. Et je vais vous lire la synthèse. Je peux vous dire, quand on a des pasteurs et des anciens, tout ça, ça a... Et plusieurs églises arrivent à cette conclusion. Et je vous lis cela. Je connais tes œuvres diverses, ton cœur et ton désir d'unité. Je n'oublie pas le sang versé dans le passé par mes serviteurs, par amour pour moi et pour cette ville. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ta première mission, chercher et trouver les perdus. Vous m'aimez, alors aimez-vous les uns les autres sans concurrence. Travaillez ensemble. Soyez conduits et transformés par mon esprit et ma parole pour emprunter des sentiers non battus qui vous conduiront vers les perdus, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et donc du zèle et repens-toi, je viens bientôt, Jésus-Christ. Je crois qu'en ce moment, le Saint-Esprit parle et il nous dit les mêmes choses. Et chacun est capable de l'entendre, de le comprendre, de le saisir, des fois confusément. Mais dès qu'on s'arrête et qu'on veut dire « Seigneur, parle », nous t'écoutons. « Parle, nous voulons faire ta volonté. Parle, nous voulons comprendre ce que tu attends de nous. » 95% des évangéliques en France ne partagent pas leur foi. Un sondage du Conseil national des évangéliques de France, l'organe qui coordonne toute la vie évangélique ici en France et qui est un organe représentatif auprès du gouvernement. Ils font un travail fabuleux, dont des projets d'implantation d'églises, pour une vision d'une église pour 10 000 habitants. Le CNEF a le projet, le rêve d'une église pour 10 000 habitants partout. Vous savez qu'il y a un désert ici, à partir de Prades jusqu'à Saint-Mathieu. Il y a 40 000 personnes, aucune église. Par contre, on est 43 églises à Montpellier. Et la vision, c'est de dire comment des églises peuvent sortir de leurs quatre murs et avoir la vision qu'il y ait une église évangélique avec un témoignage puissant de la présence de Dieu partout où il y a 10 000 habitants. Eh bien, ils ont fait un sondage pour dire, mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'envoyer en mission aujourd'hui? Eh bien, quand on fait des sondages, 95% des croyants évangéliques ne partagent pas leur foi, ne sont pas en mission, ne sont pas dans la logique de dire je sors des quatre murs de mon confort personnel et que je me recentre sur la mission de Jésus de partager cette bonne nouvelle à tous ceux qui m'entourent. 95 qui ont de bonnes raisons de ne pas le faire. 95% qui disent ok, je vais te donner tous mes prétextes. Il fait que ce que Jésus attend en premier, c'est d'aller. Et c'est exactement ce que je crois que nous captons de ce que le Saint-Esprit dit. Et il le dit ici, mais il le dit ailleurs. Il le dit en France, il le dit partout. L'enjeu, vous savez, c'est quoi? Par exemple, parce que nous obéissons pas, Dieu suscite des mouvements. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de The Last Reformation. Et ce mouvement, il est connu parce qu'il est plus structuré, mais il y a des tas de courants suscités par le Saint-Esprit pour exactement dire ce que nous sommes en train d'entendre, et ils le font. Vous savez quoi? Avec la puissance du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, sans pour autant être des champions, vous savez, des gens qui ont 40 ans, 50 ans de formation, qui maintenant le font, ils viennent de se convertir, ils y vont. Revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils y vont. Et ils vont dehors et ils prêchent. À peine nés de nouveau, à peine remplis du Saint-Esprit, ils prient pour les malades. Et vous savez ce qui se passe? Non, vous savez ce qui se passe? Les malades sont guéris. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Ça dépend de la foi de sortir des murs et d'avoir la conviction que c'est le temps, c'est le moment de prendre des risques pour lui. Quand tu le fais, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, avec son courage, avec sa force, je sors de la barque, j'y vais, et puis je prie spontanément autour de moi, comme en allant dans la rue et le faire envers les gens que je ne connais pas, parce que je le fais revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quelque chose se passe. Parce que j'obéis en comprenant que c'est le temps et il faut qu'on y aille. Quand bien même ça va venir nous bousculer, je voudrais annoncer une saison où l'Église se lève. Je voudrais annoncer une saison où nous rentrons dans ce courant. C'est pas juste une bonne volonté, c'est pas juste une bonne idée. C'est l'intention de Dieu de toute éternité. Il a envoyé Jésus pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et il veut nous embarquer dedans, en tant qu'église, avec ce que nous sommes dans notre style. Il y a des gens qui ne pourraient pas supporter la logique d'aller dans la rue. Dans le sens de témoigner à des personnes qui ne connaissent pas. Vous savez, celui sur la place de la comédie, faire un peu comme les racoleurs. Là, tu ne voulais pas mon sondage? Non, lâche-moi la grappe, vous voyez. Il y a des gens qui ne vont peut-être pas supporter cela. Mais par contre, dans ta maison, dans ton voisinage, quel que soit le lieu, le Seigneur nous défie de sortir de notre zone de confort. De le faire revêtu de la puissance du Saint-Esprit, d'oser le faire et que ça devienne, vous savez quoi, un style de vie, une habitude de vie. Cette année, avec cette pastorale, on est allé prier dans une autre église et puis un autre pasteur, il s'appelle David Ossé de l'église à Pompignan, partage, anime un temps de prière et il dit, il s'est donné pour défi que chaque semaine, il rendrait témoignage à quelqu'un. Chaque semaine. Et quand l'échéance arrive, mettons que ce soit le vendredi, son compte à remboursement en route, le vendredi soir à 20h, je n'ai pas témoigné. Il mange, il se rhabille, il sort, il dit « Seigneur, avant 24h, donne-moi quelqu'un à qui je vais témoigner de Jésus. » J'ai dit « Waouh, David !» David, tu es un modèle. Nous voulons que le partage de la foi soit une habitude aussi importante que la prière et la lecture de la parole. C'est des habitudes à apprendre. Ça s'apprend. Ce n'est pas forcément inné. Il y a des gens pour qui c'est inné. Ils sont tombés dedans comme Obélix, vous savez. Vous pensez à quelqu'un là? Juste dès que j'ai dit Obélix, notre Obélix à nous, il s'appelle comment? Éric. Obélix, il est tombé dedans. Je ne sais même pas si il saurait expliquer comment. C'est acquis dans sa vie. Mais par contre, le Seigneur veut nous donner une gourde à chacun. La potion magique du Saint-Esprit. Si tu n'es pas Obélix, tu es peut-être Astérix. Hein? Mais n'oublie pas ta gourde. Prends ta gourde régulièrement. Il y a un combat, il faut traverser une armée. Prends ta gourde. Revêt-toi de la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. et puis qu'il se passe quelque chose. Quand tu te mets en mouvement, quelque chose va se passer, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le faire. Par contre, attendre, et sans que rien ne se passe, vous savez, c'est une conjugaison. Priez, attendez, le Saint-Esprit va survenir sur vous pour être témoin. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins, pour témoigner là où il nous place. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit dans une perspective. C'est comme si, des fois, quand on dit Saint-Esprit, on pense ou ça nous conduit à autre chose que d'être des témoins. Revêtir la puissance du Saint-Esprit, recevoir, on peut vouloir cela pour être guéri, pour être libéré, des tas de choses qui sont des bénéfices secondaires du Saint-Esprit. Mais ça ne peut pas être un bénéfice premier. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'objectif, c'est être des témoins. Mes témoins, pas forcément la lumière qui brille dans la lumière, ça ne sert pas à grand-chose. Souvent, on éteint. Quand il y a déjà de la lumière, on éteint. La lumière du soleil quand il est dans la maison et puis qu'on allume, en général on éteint, on dit mais fais des économies, ça n'a pas besoin, partout il y a la lumière, il n'y a pas besoin de trop briller. En général, pour être témoin et allumer la lumière, il faut aller dans les ténèbres, des ténèbres. Et c'est pour ça que on va tout à l'heure refaire, même dans juste 3 minutes, un autre temps de partage où on ne va pas écouter seulement le Saint-Esprit, mais on va pratiquer ce qu'il nous dit. Comment faire, appliquer ce que nous comprenons de ce qu'il nous dit? Parce que c'est là où il nous attend. Pour cela, je vais juste lire un verset dans Luc 10, 2, ou même Jean 4. Jésus dit, la moisson est prête, elle est blanche. La moisson, l'image de la moisson, c'est les non-croyants qui vont recevoir la bonne nouvelle par ta parole. Ces personnes-là, cette moisson, elle est grande, elle est prête. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a du travail, c'est prêt. Il faut envoyer les ouvriers pour qu'ils rentrent à la moisson. Deux choses avant de nous mettre en travail. C'est que, est-ce que tu considères que la moisson est prête? Est-ce que dans ta vie, dans ton regard, quand tu lèves les yeux, vous savez, Jésus dit, vous vous dites, il faut 4 mois. Il regarde la moisson et il dit, elle est déjà prête. Mais nous, on peut dire, non, c'est pas prêt. C'est pas ici, c'est pas maintenant. C'est pas par moi, c'est pas maintenant que ça se passe. Alors que Jésus dit, la moisson est prête. Pour y aller, pour pratiquer, il faut déjà changer notre regard sur la moisson. Est-ce que tu considères qu'elle est prête? Qui c'est qui peut me dire que la moisson autour de nous, là, de chacun de nous, de notre église, là, elle est prête? Vous levez les mains, comme ça. Ok? Attendez, gardez les mains levées, le Seigneur prend la photo. Ça veut dire, maintenant que tu dis qu'elle est prête, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il faut la rentrer. Mais juste avant, donc un changement de regard qui va pouvoir dire, elle est prête. Et ça demande d'être touché par Dieu. Parce que c'est comme si Jésus, lui, quand il regarde la moisson, il la voit prête, nous ne la voyons pas prête. Il y a une repentance à faire, il y a des lunettes à mettre, il y a quelque chose qui doit se passer pour que nous voyons qu'elle est prête. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Mais la deuxième chose, c'est que Jésus ne dit pas, elle est prête, allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? La moisson est grande, elle est prête. Qu'est-ce qu'il dit? Priez. En fait, dans les nouvelles habitudes de croyants qui disent la prière, oui, c'est très important et on va y être, mais pourquoi on prie? Il y a très peu d'injonctions de Jésus, d'objectifs que Jésus nous donne pour la prière. Très peu. Il nous a donné la prière du Notre Père, ça c'est un modèle de prière, de relation à Dieu. Mais là, il nous dit pourquoi prier? Et la question c'est, quelle est la part que la moisson a dans tes prières? Quelle est la part que la moisson a? Il dit, elle est prête. Mais avant d'y aller, c'est pas juste du courage qu'il nous faut, c'est pas juste de la foi, c'est de la prière. Et il dit, priez le maître, celui à qui appartient la moisson, d'envoyer les ouvriers. C'est-à-dire, en fait, c'est parce qu'on se tourne vers lui et qu'il y a un souffle prophétique qui se met. Seigneur, envoie, souffle, envoie. Des 80, on l'a chanté ce matin, du nord, du sud, que ton esprit vienne, que ce soit ton esprit qui pousse dans la moisson. Le fameux envoi, c'est une expulsion. Exactement comme quand on chasse les démons, figurez-vous. Le même terme. Expulse tes ouvriers dans la moisson. Seigneur, nous prions qu'il y ait une force spirituelle, une puissance qui nous pousse dans la moisson. Mais ça vient de toi et nous ne voulons pas y aller de nous-mêmes avec nos propres forces. On fléchit le genou. Et on prie, Seigneur, ça t'appartient, envoie. On ne veut pas y aller de nous-mêmes, on veut un mandat, un sceau, une marque de Dieu. Envoie-nous dans la moisson. Envoie-nous dans la moisson. Envoie, envoie. Partout où il y a une moisson qui est prête, envoie. Et alors, je me suis engagé et je vous engage à mettre sur vos téléphones un rappel. Si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez le faire. 10h02, Luc 10:2, 10h02, un rappel. Priez le maître de la moisson. Luc 10:2, à 10h02 tous les jours. Ça va sonner. Hop, hop, hop. Et d'ailleurs, tu peux mettre un petit son là. Voyez. Ça, c'est le rappel. Je vais prier le maître de la moisson. Ça peut te prendre 3 secondes. Mais à 10h02, tu vas dire, Seigneur, je prie que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. L'objet de la prière, quand Jésus dit prier, il nous demande à ce que ce soit la moisson. Nous levions nos yeux vers la moisson. Levez les yeux vers la moisson. Alors que vous levez les yeux, priez le maître. Ici, au loin, priez le maître. Qu'un esprit de supplication vienne sur nous. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Envoie-les toi-même. Quand c'est Dieu qui te mandate, quand c'est Dieu qui remplit un message, qui a dans son cœur, je veux boire de l'eau, et que tu es amoureux de lui, il y a quelque chose qui jump dedans de ton cœur. Je vais y aller. Je vais y aller. Mais je prie que plusieurs soient saisis de cette même passion, plusieurs soient saisis de ce même amour, pour dire, je veux faire boire Jésus, des âmes, je veux faire boire, boire, et qu'il y ait une effusion de l'esprit. Alors je nous propose de nous remettre en groupe, ça peut être les mêmes ou d'autres. Comment que je vais le faire? Comment que nous allons le faire? Comment on va obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit? Comment tu vas intégrer de nouvelles habitudes pour que ce soit aussi naturel de prier? J'espère qu'au bout d'une semaine que tu n'as pas prié, que tu n'as pas lu la parole, il y a quelque chose qui se passe dans ta conscience. En général, si ce n'est pas le cas, venez me voir. Au bout d'une semaine, ah, t'as soif, t'as envie d'y aller. Mais comme David, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai témoigné. C'est quelque chose qui devient une habitude. Pour ça, ça demande une pratique et on va se mettre en groupe pour dire comment on va le faire concrètement. Faisons-le, obéissons à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Alléluia. Ok, je vous laisse terminer votre phrase et après... on conclut ensemble. Ok. On dit chute ensemble. Ah, 1, 2, 3. Encore une fois. Super, merci. Alors, je voudrais finir par la prière et en même temps donner l'occasion de faire une synthèse de vos partages. Mais sachez que, à partir de la rentrée, on va obéir au Saint-Esprit. La série qui aura lieu sera sur ce sur quoi nous sommes en train de travailler et partager. Donc je vous engage à prier déjà et à vous mettre vous-même en mouvement sur ce que vous avez capté, compris de ce sur quoi nous allons travailler. Mais je vais donner l'occasion à ce que certains disent un mot. Il y a juste un mot, pas de phrase, rien, un mot pour pratiquer. Un mot. Obéissance. Un mot dans vos partages. Amour, ok. Habitude, très bien. Décision, super. Intentionnel, vivre une vie intentionnelle, super, oui. Alors attends, il y a juste derrière toi Marina, oui. Annoncer la bonne nouvelle, ok. Discernement, très intéressant. Action, oui. Être témoin à mon niveau. Vous avez capté l'affaire là? Ok. Autre chose? Sylvain? Se décentrer. Ok. Décentrage. Oui. Rencontre. Super. Oui. Attentif. Ok. Oui. Persévérance. Très juste. Écoutez, waouh, vous savez, là, on a un super programme. Bientôt, oui. Audace. Sortir et parler. Fidélité. Ok. On y est. Ouais, allez. Discipline. Bon, c'est un sacré programme. On vient d'avoir la liste du programme de notre vie de disciple l'année prochaine. Oui, oui, on peut applaudir. Hein. Je pense qu'il y a des... C'est un beau défi qui est là devant nous et je crois que par la grâce de Dieu, on va le relever. Je vous propose de vous lever, s'il vous plaît, justement, et qu'on prie comme Jésus a prié dans Jean 17. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je voudrais que nous prions pour tous ceux que Jésus a prévus qui croient en lui par ta parole. C'est des personnes que Dieu t'a données autour de toi. On y reviendra. C'est un oikos, une maison, des personnes, un héritage. Toi et ta maison, tu seras sauvé. Mais j'aimerais qu'on élève nos voix comme un cri. Quand on prie, mais c'est quelque chose de profond, une supplication. Vous savez, il y a différents types de prières. On peut supplier, on peut crier à Dieu. Seigneur, je prie que par ta grâce, ceux que tu m'as donnés, qui doivent croire par ma parole, puissent l'entendre. Et qu'elle soit puissante, qu'elle produise la vie, et que l'on voit plusieurs se tourner. Et ce n'est pas une pression qui vient sur nous, c'est une pression qui vient sur Dieu. Est-ce que vous savez que votre prière met de la pression à Dieu ? À cause de ton nom, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit révélé. Seigneur, manifeste-toi. Est-ce qu'on peut crier, on peut prier ce type de prière ensemble, s'il vous plaît ? Et miser tout ce que Dieu vous a donné. Ça peut être votre voisin, votre famille, mais levons nos voix avec foi, s'il vous plaît. On peut se mettre à genoux, mais crions à Dieu, s'il vous plaît. Il dit, priez le maître de la moisson, priez avec un souffle d'en haut. Élevons-nous, pendant que je vous parle, élevons vos voix, s'il vous plaît. Levons nos mains vers Dieu et demandons sa grâce, qu'il agisse au travers de toi, de ta parole, au travers de ton cœur, qu'il y ait un feu qui vienne et qui touche ceux qui t'entourent, tout ce qui t'a donné, c'est ton héritage, c'est ta part, c'est ce que Dieu a mis à part pour toi, par toi, au nom de Jésus-Christ. Élevons-nous, voix. Nous demandons ton feu pour cela, que ton feu descende. Nous l'avons prié, nous l'avons chanté, que ton feu descende. Vienne sur nous comme à la Pentecôte pour être témoin puissant par la parole, par les actes, par la compassion. Feu de Dieu. Même pendant cet été, Seigneur, nous te louons pour les trois baptisés en plus qu'il y a eu à la mer. Nous voulons d'autres baptisés comme cela qui se tournent vers toi, qui sont touchés par la connexion avec des croyants. Au nom de Jésus, que le feu nous accompagne partout pour une adhésion, pour un cœur qui se donne à toi. Au nom de Jésus. Amen, amen. Élevons nos voix et crions à notre Dieu. Que ton amour nous presse, Seigneur. Que ton amour nous presse. Alléluia. Que ton amour nous presse. Produise du vin, Seigneur. Produise quelque chose du royaume de Dieu. Partagé à ce qui nous entoure. Au nom de Jésus. Ça me montre que ça va nous presser. Son amour va nous presser. Et on ne va peut-être pas toujours... savoir ou discerner, nous souvenir que nous avons prié ce que nous sommes en train de prier. Mais ça passe par le pressoir. Et il va nous presser, mais c'est son amour qui va nous presser. Et c'est une boisson qui va être donnée aux autres, c'est quelque chose du royaume de Dieu qui va être partagé. Parce que c'est une pression qui vient sur nos cœurs, mais qui est un breuvage pour notre entourage. Et il le fait sur l'ensemble de l'Église. Acceptons son œuvre de pressoir. Son amour qui vient sur nous, qui nous recentre au cœur de sa volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est là son cœur que nous recevons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous disons, nous voici, toi qui dis, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Et comme Jésus-Christ lui-même a répondu, nous disons, nous voici. Nous donnons nos mains, nos cœurs, ce que nous sommes, notre temps, notre passion. Nous disons, nous voici, envoie-nous. Alléluia. Nous voici, envoie-nous. Alléluia. Nous le disons ensemble, Seigneur. Nous voici, envoie-nous. Alléluia. Et je sais que nous allons avoir des témoignages, des expériences de tous ceux qui sortent de la barque, commencent à pratiquer, obéir. On va être étonnés. On va être étonnés. Ouais. Parce que il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient et se mettent en mouvement. Le Seigneur lui-même travaille avec nous. Je le crois. Dès cet été, il ne faut pas attendre la rentrée, c'est déjà en mouvement. Je loue le Seigneur pour ce qui s'en vient. Soyez bénis.